Les colloques du Collège de France.
Nous allons entendre tout de suite donc, le second contributeur de cet après-midi, Alessandro Tussilo, qui est donc professore associato, maître de conférence, en histoire moderne au département de culture politique et société à l'Université de Turin. Ses recherches portent principalement sur l'histoire politique des 17e au 19e siècle, et en particulier sur l'esclavage colonial. Il a publié de nombreuses monographies, je ne vais pas toutes les citer, mais je voudrais donner, disons, une attention particulière, ça m'a beaucoup intéressée, précisément un article consacré au livre 15 de l'Esprit des lois, également aux Lumières italiennes, donc Filangieri notamment. Voilà, donc je vous donne tout de suite la parole pour une communication intitulée « Le déshonneur de la philosophie, la réflexion anti-esclavagiste » de l'abbé Pietro Tamburini.
Merci, merci Madame la Présidente. Je suis le dernier à prendre la parole et au risque d'abuser encore quelques instants de votre attention, après deux journées riches d'échanges, je ne voudrais pas pour autant renoncer à remercier Gabriel Dariula pour son invitation, ainsi que pour l'excellente organisation de ce colloque, rendu possible grâce au soutien de la Bibliothèque nationale et du Collège de France. Je suis honoré de pouvoir intervenir pour la première fois ici, au Collège de France, et d'y présenter quelques résultats de recherche que je poursuis depuis de nombreuses années sur la circulation des idées anti-esclavagistes dans les contextes politiques et culturels italiens des 18e et 19e siècles. Les communications qui m'ont précédé ont confirmé la pertinence de l'intuition qui a présidé à l'organisation de ce colloque. Interroger la dimension cosmopolite de la pensée critique de l'esclavage colonial. Or, cette dimension cosmopolite qui s'est imposée au fil de nos discussions autour de l'abbé Grégoire se retrouve également chez l'auteur au centre de mon propos, l'abbé Pietro Tamburini. Contemporain, Grégoire et Tamburini tissent des liens d'un versant à l'autre des Alpes. Souvent indirectes, ces relations s'enracinent néanmoins dans des formes d'engagement religieux et politique largement communes. C'est à partir de ce rapprochement qui s'articulera cette communication. Dans un premier temps, je proposerai quelques pistes de réflexion issues de la mise en perspective comparative de ces deux figures. Je m'intéresserai ensuite à la biographie intellectuelle de Tamburini et bien entendu aux spécificités de sa réflexion anti-esclavagiste. Enfin, je conclurai par des considérations sur la circulation des idées critiques de l'esclavage en Italie et sur les résistances longtemps opposées par l'Église catholique. Dans leurs contextes respectifs, Grégoire et Tamburini comptent parmi les principaux représentants du jansénisme de leur temps. Ce qui les rapproche est une même conception du christianisme, un christianisme militant, nourri d'augustinisme, critique à l'égard de l'orthodoxie thomiste de l'Église romaine, hostile aux formes de religiosité baroque marqué par la spiritualité jésuite et sensible aux exigences de réformes politiques, jusque dans leurs expressions révolutionnaires. La question de l'esclavage constitue également un terrain sur lequel apparaissent des affinités entre Grégoire et Tamburini. Certes, il serait trompeur de perdre de vue les différences qui les séparent. C'est comme député de l'Assemblée révolutionnaire que Grégoire fait de la défense des gens de couleur et des Africains réduits en esclavage l'un des axes majeurs de son action intellectuelle et politique. Il compte bientôt parmi les principaux animateurs du mouvement abolitionniste à l'échelle internationale. Tamburini, quant à lui, aborde la question de l'esclavage colonial dans le cadre de son enseignement de la philosophie morale et du droit naturel à l'Université de Paris. Son engagement politique, des réformes de la monarchie autrichienne à Lombardie aux expériences révolutionnaires et napoléoniennes dans l'Italie du Nord, reste étroitement lié à son activité intellectuelle. C'est donc avant tout comme professeur qu'il exprime sa condamnation sans appel d'une institution pluriséculaire qu'il juge dépourvue de toute légitimité. À cet égard, un premier point mérite d'être souligné. C'est Grégoire lui-même qui reconnaît la contribution de Tamburini à la cause anti-esclavagiste. Et il le fait, je dirais même solennellement, dans la dédicace de la littérature des nègres, qui a déjà été évoquée par Cécile Vidal dans son intervention de ce matin. Permettez-moi néanmoins de revenir sur la composition de cette liste. Grégoire y réunit des personnalités très diverses avant de replacer au cœur du débat politique la question de l'unité de l'espèce humaine. Un moment délicat pour le mouvement abolitionniste en France. En 1808, 6 ans après la loi du 30 Floréal en 10, le climat politique est devenu nettement plus favorable aux partisans de l'ordre esclavagiste dans les colonies. Dans ce contexte de reflux, Grégoire revient sur l'histoire de l'anti-esclavagisme afin d'en réactiver l'héritage intellectuel, avec toute la prudence qui impose un environnement politique hostile. La dédicace apparaît ainsi comme une reconstruction de cette histoire au service d'une nouvelle mobilisation politique. Mais il y a plus encore. Cette dédicace de la littérature des nègres pourrait presque être lue comme une conclusion possible de notre colloque. Certes, la liste est organisée selon un principe national, mais cette répartition met en valeur l'unité d'un mouvement d'idées et d'actions politiques qui dénonce l'inadmissibilité du système colonial esclavagiste. Pour Grégoire, l'anti-esclavagisme touche en effet à l'essence universelle de l'humanité. Il constitue une cause cosmopolite, puisqu'une telle cause doit être menée dans un cadre international, dans une perspective que nous qualifierons aujourd'hui de transnationale. La dédicace permet de saisir, d'une part, l'horizon des lectures de Grégoire ainsi que le réseau de relations dans lequel il s'inscrit. D'autre part, la dédicace propose une orientation intellectuelle et politique au mouvement abolitionniste du début du XIXe siècle. Or, la dédicace de la littérature des nègres fait du dépassement des rivalités entre puissances coloniales l'un des traits caractéristiques de l'abolitionnisme, au nom d'objectifs politiques communs. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement pour une cause universelle appelée à lutter contre les ennemis de l'humanité. Grégoire est explicite à cet égard. Je cite « Les amis de l'esclavage sont nécessairement les ennemis de l'humanité ». Fin de citation. C'est sur ce fond de cosmopolitisme, au sens propre du XVIIIe siècle, que Grégoire construit une sorte de généalogie unitaire de l'abolitionnisme, tout en opérant des choix significatifs. Certaines absences illustres, comme celle de Diderot et Jour, n'empêche pas la dédicace d'établir un lien direct entre la réflexion anti-esclavagiste des Lumières, de Montesquieu à Raynal, de Bernardin de Saint-Pierre à Condorcet, et le mouvement abolitionniste proprement dit. Grégoire réunit les philosophes qui dénoncent l'esclavage au nom des principes universels du droit naturel, les représentants de l'abolitionnisme chrétien anglais, tels Thomas Clarkson ou William Wilberforce, ainsi que des figures majeures de l'élite politique américaine comme Thomas Jefferson ou Benjamin Franklin. Les différentes matrices culturelles de l'anti-esclavagisme et de l'abolitionnisme se trouvent ainsi rassemblées dans un même récit. Mais ce discours unitaire constitue aussi une sorte d'amalgame orienté par une intention polémique. Et c'est peut-être là l'élément idéologique le plus encombrant de l'argumentation de Grégoire, sur lequel je reviendrai dans ma conclusion. À ses yeux, en effet, toute critique de l'esclavage colonial contribue à conforter la vérité chrétienne de l'unité de l'espèce humaine. Le dépassement du système colonial esclavagiste passe par une régénération chrétienne universelle. Dans la dédicace, les frontières de l'international abolitionniste de Grégoire, pour reprendre l'efficace image anachronique forgée par Yves Benoît, ne se limite pas à une civilisation atlantique franco-anglo-américaine. On y trouve une liste de nègres et sans mêlée, un aspect cohérent avec un ouvrage comme La littérature des nègres et qui témoigne aussi de la place que Grégoire accorde aux victimes de l'esclavage elles-mêmes dans le processus de leur émancipation. On y trouve également des listes d'Allemands, de Danois, de Suédois, de Hollandais et, inclusion qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, d'Italiens. Et certes, les listes que je viens d'évoquer sont brèves et ne sont pas comparables aux longues énumérations de Français, d'Anglais et d'Américains. Elles se présentent néanmoins comme des listes ouvertes, sans prétention à l'exhaustivité. Qui sont donc finalement ces Italiens mentionnés par Grégoire? Cette brève liste que je vous montre soulève plusieurs difficultés d'interprétation. La première concerne le cardinal Cibo. Le cardinal Cibo, peut-être Alderano Cibo Malaspina, secrétaire d'État du pape Innocent XI dans les années 1680. Vient ensuite une référence générique au collège des cardinaux. Enfin, avant Zaccaroli, peut-être le lettré et homme politique Francesco Zaccaroli, apparaît le nom de l'abbé Pierre Tamburini, le seul qui, à l'état actuel des recherches, semble avoir laissé des traces significatives d'une argumentation anti-esclavagiste. Il est temps à présent d'aborder le deuxième volet de ma communication et de nous concentrer sur la biographie intellectuelle de Tamburini et sur sa réflexion anti-esclavagiste. Né à Brescia en 1637 dans une famille de la bourgeoisie marchande, Tamburini se consacre très tôt à l'étude de la philosophie et de la théologie, tout en se rapprochant des doctrines jansénistes. Ses lectures théologiques s'accompagnent d'un vif intérêt pour la culture des Lumières. Ordonné prêtre en 1760, il mène l'essentiel de sa carrière à l'enseignement, d'abord dans les séminaires diocésains, puis à l'université de Pavie, dont il est recteur pendant plusieurs années. Lié au milieu janséniste romain, qui bénéficie alors d'une plus grande liberté d'action sous le pontificat de Clément XIV, il se trouve au centre de nombreuses controverses théologiques qui l'opposent aux jésuites, aux nonces apostoliques, à des représentants de la Curie romaine, surtout après la mort de Clément XIV, ainsi qu'à l'évêque de Brescia. La virulence de ces polémiques lui vaut le surnom de Luther d'Italie. Partisan des réformes ecclésiastiques de l'empereur Joseph II, il collabore étroitement avec l'évêque Scipione de Ricci, ami et correspondant de Grégoire, dans la préparation et l'animation du synode de Pistoia de 1786. Les orientations doctrinales et ecclésiologiques qui y sont élaborées et qui seront par la suite condamnées par Rome marquent le point culminant du jansénisme italien au XVIIIe siècle. Lorsque les événements révolutionnaires français viennent bouleverser l'Europe, Tamburini s'efforce de réfuter les accusations qui font du jansénisme l'un des responsables de la Révolution. Il est pourtant écarté de son poste universitaire et ne reprend son enseignement qu'au moment de la première républicanisation de l'Italie du Nord. Son engagement en faveur du gouvernement révolutionnaire, malgré sa proximité avec le milieu modéré, le condamne ensuite à l'isolement après l'avancée des armées austro-russes en 1799. À la suite de la bataille de Marengo et du retour des Français, qui supervise successivement la reconstitution de la République cisalpine, puis de la République italienne et enfin du Royaume d'Italie, Tamburini est réintégré dans ses fonctions de professeur à l'Université de Pavie. Entre 1804 et 1812, il publie les 5 volumes de ses Lezioni de Philosophia Morale, Leçons de philosophie morale. Cette entreprise est précédée dès 1803 de 2 volumes dans lesquels il reprend, avec quelques révisions mineures, son Introduzione allo studio della filosofia morale, Introduction à l'étude de la philosophie morale, déjà paru en 1797. Ces textes constituent la principale source permettant d'accéder à la réflexion anti-esclavagiste de Tamburini. La réfutation de la légitimité de l'esclavage apparaît clairement dans l'introduction à l'étude de la philosophie morale. Elle est liée à une conception des droits naturels de l'homme qui accueille les développements les plus avancés de la réflexion des Lumières contre le pactum subjectionis, sur lequel l'école moderne de droit naturel avait fondé la souveraineté. De Grotius et les autres, pour reprendre la célèbre formule de Rousseau dans le contrat social. Pour Tamburini, Hobbes est, je cite, un célèbre promoteur du despotisme. Fin de citation. Contre le philosophe anglais, il affirme que les droits naturels de l'homme, je cite, découlent de sa nature même. Ils sont également nécessaires, immuables et inaliénables. Fin de citation. Parmi ces droits, il définit la liberté naturelle comme le droit le plus excellent de l'homme. S'ensuit une série de formules brèves et percutantes, vous les voyez ici, qui nient que l'homme puisse devenir une chose, condition à laquelle l'institution de l'esclavage le réduisait. Tamburini juge notamment illégitime qu'un homme, naturellement libre, puisse naître esclave. Il qualifie d'insensé l'aliénation de la liberté et d'usurpation, la prétention du maître à exercer un droit de propriété sur l'esclave. On retrouve l'écho de Montesquieu, du livre 15 de l'Esprit des lois, dans ses affirmations. Le livre 10 de l'Esprit des lois apparaît également en arrière-plan, lorsqu'il est question des rapports entre droit de guerre et esclavage. On lit ainsi au paragraphe 52 du texte de Tamburini, je cite dans ma traduction française, « Les droits de la guerre et de la conquête ne confèrent pas le droit de dépouiller l'homme de sa qualité d'homme et de ses droits originaires et inaliénables. » Fin de citation. Cette réfutation sans équivoque de la légitimité de l'esclavage se confronte quelques années plus tard dans les lezioni di philosophia morale à la réalité concrète de l'esclavage colonial. Dans la 14e leçon intitulée « De la propriété personnelle de l'homme », Tamburini exprime son trouble devant la longue histoire de l'esclavage. Une histoire dont l'actualité demeure saisissante et qui apparaît d'autant plus surprenante, je cite, « au milieu de tant de lumières répandues par la philosophie ». Fin de citation. Au début du 19e siècle, Tamburini ne juge plus nécessaire de s'attarder à démontrer l'injustice de l'esclavage, et plus particulièrement celle de l'esclavage et de la traite des Noirs. Il reprend ainsi un procédé rhétorique répandu déjà à la fin du XVIIIe siècle, exprimer son étonnement et sa consternation devant la persistance de l'esclavage à l'âge même des Lumières. Cette institution entrait en contradiction manifeste avec l'image partagée d'un mouvement général de progrès et d'éclairement. Elle apparaissait comme un démenti à l'expansion de la civilisation au détriment des injustices héritées du passé. Pour Tamburini, l'esclavage constitue, je cite, « la plus funeste attente que l'on puisse porter à la propriété individuelle de l'homme ». Fin de citation. Au point de faire paraître comme des légères blessures, ce sont ces mots, la doctrine du suicide et le gouvernement féodal. L'esclavage des anciens est qualifié d'infâme. Celui que les modernes exercent contre les Noirs ne l'est pas moins. Tamburini souligne que les différences physiques des Noirs ne le rendent nullement étrangère, je cite, aux propriétés essentielles de l'espèce humaine. Fin de citation. Or, la traite atlantique et l'esclavage colonial leur dénient précisément cette humanité en les ravalant au rang des choses. Un tel processus n'est finalement possible qu'au prix de ce que Tamburini appelle, je cite, le déshonneur de la philosophie. Nous sommes ici au cœur de la réflexion anti-esclavagiste de Tamburini. La culture des Lumières avait désormais privé l'institution de toute légitimité. Aux étudiants qui suivaient ses cours à l'Université de Pavie, il ne pouvait dès lors que réaffirmer son exécration de l'esclavage et souhaiter sa disparition. Face à certaines interprétations historiographiques qui, au cours des dernières décennies, ont fini par nier la contribution des philosophes à l'anti-esclavagisme, l'analyse que des contemporains tels que Tamburini proposent de leur propre époque invite peut-être à des lectures moins tranchées. Je cite dans ma traduction française ce passage des lezioni di philosophia morale qui me paraît révélateur à cet égard. Depuis les ouvrages de Montesquieu, de Reynal et de tant d'autres écrivains, nul de nos jours n'hésite plus à qualifier l'esclavage personnel d'injustice, d'infamie pour la philosophie et pour l'humanité. Tous s'accordent à reconnaître que le commerce et l'esclavage des Noirs sont contraires à la justice, au droit naturel, à la morale évangélique et au premier élément de la sociabilité. Fin de citation. L'évidence de l'inadmissibilité morale du système esclavagiste était, selon Tamburini, confirmée jusque par les interventions de ses propres défenseurs dans le débat public. Ceci n'avait plus même l'audace de contester l'idée que l'esclavage fût un mal et qu'aucun principe ne pût lui conférer une quelconque légitimité. Les raisons de son maintien ne pouvaient dès lors être que politiques et économiques. L'idée que les colonies, et avec elles la prospérité de l'Europe, ne pouvaient subsister sans le travail des esclaves. À ce propos, Tamburini discute le discours sur l'esclavage des nègres, publié en 1786 par le colon de Saint-Domingue David Duval de Sanadon, qui sera actif au sein du club Massiac pendant la Révolution. Dans ce discours sur l'esclavage, la description édulcorée des conditions de vie des esclaves, l'idée que les Noirs des colonies vivaient mieux que les travailleurs journaliers des villes européennes, ne paraissait à Tamburini dictée que par l'intérêt. La réalité était tout autre, comme le montraient les ouvrages de dénonciation virulente de Thomas Clarkson et ou de Bernardin de Saint-Pierre. Tamburini possède donc une connaissance approfondie des débats. C'est à partir de ce matériau qu'il élabore une position anti-esclavagiste radicale, voire abolitionniste. Il est difficile d'établir dans quelle mesure cette connaissance était directe. Aux auteurs déjà mentionnés, il faudrait au moins ajouter l'importante référence à Adam Smith. Une chose est néanmoins certaine. La construction argumentative de ces pages des lezioni di philosophia morale doit beaucoup au vaste examen de la question de l'esclavage que le philosophe et homme politique suisse Rudolf Louis d'Arlac déploie dans le sixième livre de son Code de Bonheur, en s'appuyant sur des fréquentes citations des auteurs qu'il mobilise. C'est dans ces pages, publiées en 1788, que Tamburini avait trouvé deux lettres consacrées à l'esclavage des Noirs, ainsi qu'un mémoire adressé au premier ministre britannique Pitt, dans lequel se dessinait un projet de réforme visant au dépassement du système esclavagiste. En définitive, l'esclavage devait être aboli parce qu'il constituait, je cite, « une tâche qui défigure l'humanité et la raison ». Fin de la citation. Comme l'a montré le passage des lezioni di philosophia morale que j'ai cité, la morale évangélique figure bien parmi les principes opposés à l'institution. Les arguments qui fondent l'anti-esclavagisme de Tamburini s'enracinent toutefois avant tout dans cette communis opinio qui, depuis l'esprit des lois, voyait dans les hommes réduits en esclavage la négation même du projet anthropologique des Lumières. Un projet intrinsèquement universel et cosmopolite. L'analyse de cette matrice culturelle de l'anti-esclavagisme chez Tamburini me permet d'aborder le dernier point de ma communication. La circulation des idées anti-esclavagistes élaborées dans le cadre de la culture des Lumières revêt en effet une dimension transnationale qui dépasse les frontières des espaces politiques et culturels directement impliquée dans la colonisation européenne des Amériques. La cause anti-esclavagiste se définit comme une cause de l'humanité et non plus seulement comme une question relevant de l'administration politique des territoires coloniaux. À ce titre, elle concerne également des contextes non coloniaux, tels que les États italiens. Dans les œuvres des philosophes comme Antonio Genovesi, Filippo Maria Briganti, Filippo Longano ou Gaetano Filangieri, mais aussi dans les écrits d'auteurs politiques engagés dans les expériences révolutionnaires américaines et françaises, tels que Filippo Mazzei ou Matteo Galdi, l'esclavage des Noirs apparaît comme un paradigme négatif aussi bien du projet politique des Lumières que de l'idéal de régénération révolutionnaire. Dans cette histoire, l'Église catholique de la péninsule ne joue aucun rôle moteur. Bien au contraire, dans les milieux catholiques, la critique de l'esclavage colonial tend plutôt à être perçue comme l'un des aspects de l'offensive des Lumières contre la société traditionnelle et se trouve à ce titre intégré à la polémique anti-lumière. Dans les années 1780, des jésuites italiens ayant subi la suppression de la compagnie, comme Giambattista Roberti, pour ne reprendre qu'un exemple, s'en prennent à la conception universaliste de l'humanité défendue par les philosophes. Roberti la présente comme une usurpation de la véritable humanité chrétienne fondée sur la charité. Or, cette charité catholique encourageait l'atténuation de la condition servile et tendait à promouvoir ce qu'on pourrait appeler une christianisation des rapports entre maître et esclave, sans pour autant remettre en cause l'institution elle-même. Longtemps, contester la légitimité de l'esclavage, une institution profondément enracinée dans les traditions classiques et chrétiennes, apparaît comme une conception inacceptable à une doctrine d'émancipation de l'homme par lui-même, indépendante des vérités de la religion révélée. Une telle doctrine semble menacer, selon une conviction largement partagée, le rôle même de la religion chrétienne et de l'Église catholique dans la société. Il n'est donc pas surprenant que ces questions théologiques, morales et politiques n'aient trouvé une réponse officielle de la part de l'Église romaine que dans le courant avancé du XIXe siècle. À cet égard, il n'est guère surprenant non plus de constater, comme nous l'a rappelé hier Gabriel Dariula, que la lettre dans laquelle Grégoire invitait le cardinal Francesco Fontana, préfet de la congrégation de propaganda fide, à s'engager pour l'éradication de l'esclavage, soit restée sans réponse. Du reste, il faut attendre la lettre In Plurimis de Léon XIII, publiée en 1888, pour trouver une prise de position explicite d'un pape contre l'esclavage. Nous sommes ici dans un contexte très différent de celui qui voit l'évangélisme britannique s'imposer comme l'une des principales forces de la mobilisation abolitionniste. Les voix critiques au sein de l'Église de Rome restent minoritaires et marginalisées. Elles proviennent souvent de milieux soupçonnés d'hétérodoxie, comme précisément les milieux jansénistes. Pour soutenir la cause politique de l'abolitionnisme, Grégoire associe la critique élaborée dans la culture des Lumières à la tradition anti-esclavagiste du christianisme réformé britannique et états-unien. Dans la littérature des nègres, cette opération le conduit à établir comme, je cite, une vérité attestée par l'histoire, une corrélation entre esclavagisme et irreligion d'une part, et entre anti-esclavagisme et adhésion aux principes chrétiens d'autre part. Pourtant, comme je l'ai indiqué, le débat emprunte des voies bien différentes au XVIIIe et au XIXe siècle. L'abbé Tamburini lui-même fonde son anti-esclavagisme sur le texte de Montesquieu et de Rénal. Certes, ces principes sont tenus pour bénéfiques et conformes au droit naturel parce qu'ils sont jugés compatibles avec les vérités de la religion révélée. Mais lorsqu'il est amené à réfléchir au rapport entre religion et droit naturel, Tamburini en vient encore, dans la leçon 59, à reprendre presque littéralement les arguments anti-esclavagistes développés dans la science de la législation, scienza della legislazione, du philosophe napolitain Gaetano Filangieri. L'œuvre de ce dernier, qui sera richement commentée par Benjamin Constant dans les années 1820, ne manque pas d'être mise à l'index par l'Église catholique, comme tant d'autres sources mobilisées par Tamburini. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que plusieurs œuvres de Tamburini lui-même connaissent le même sort. Pour le théologien janséniste Pietro Tamburini, la traite et l'esclavage des Noirs ne peuvent qu'être contraires aux principes du christianisme. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est moins au nom de la religion révélée qu'au nom de la philosophie qu'il en formule la condamnation. La traite et l'esclavage des Noirs sont avant tout, pour reprendre le titre de cette communication, le déshonneur de la philosophie. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.